La main verte, c'est celle d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia,
bonjour Alain.
À tous. Jardinier de Versailles, l'hypomée ce matin. L'hypomée, c'est une plante qui ressemble au liseron.
Et oui, comme le liseron, elle est grimpante. Ses feuilles sont en forme de cœur et ses fleurs le plus souvent bleues, rose ou blanche. Elle dure généralement peu de temps, mais avantage, elle se renouvelle sans cesse. En été, elles sont dans le jardin les premières à s'ouvrir dès 5h du matin, et c'est pour cela qu'elles sont aussi appelées gloire du matin. Mais Eric, comme le disait votre grand-mère, on ne peut être du matin et du soir, je suis sûr qu'elle l'a dit au moins une fois.
C'est ma grand-mère où elle est.
Eh bien oui, elles sont donc là encore les premières à se refermer en fin de journée. La plante, l'hypomée, peut atteindre 5 mètres de hauteur et autre avantage encore, sa croissance est très rapide.
En Amérique du Sud, l'hypomée était autrefois surnommée l'herbe de serpent.
Alors rassurez-vous, elle ne les attire pas, mais elle était appelée ainsi par les prêtres précolombiens qui savaient les propriétés hallucinogènes des graines en décoction. Celles et ceux qui en consommaient étaient pris de folie et s'imaginaient alors encerclés et piqués par les reptiles ou autres bestioles diaboliques.
Et en France, l'hypomée est plus connue sous le nom de volubilis.
Un volubilis qui a inspiré nombre d'écrivains, comme Sully Prudhomme, premier lauréat de prix Nobel de littérature en 1901, qui souhaite en voir planté sur sa tombe. Voilà ce qu'il écrit en 1869, quand il écrit son poème, simplement ou sobrement, intitulé « Les solitudes ». Au lieu des dahlias, des roses et des lys, transplante près de moi le gai volubilis qui, familier, grimpant le long du vertréage, pour denteler l'azur où ton âme voyage, forme de ta beauté le cadre habituel et fait de ta fenêtre un jardin dans le ciel.
Ouais. Et plus proche de nous, c'est la chanteuse Marie-Paul Bell qui avait rendu cette plante célèbre.
Vous vous rappelez tous de Marie-Paul Bell, cette chanson très à succès. Eh bien, en 1980, elle interprète, souvenez-vous, à quel délice l'amour dans les volubilis.
Eh ben, on attend que vous la chantiez un peu, non?
Plus tard.
Il n'y a pas la musique.
Plus tard.
Alors à présent, vos conseils aux auditrices et auditeurs de France Inter. Pascaleux, je ne comprends pas pourquoi les platanes sont taillés dans ma ville tout en hauteur. Ils sont dégarnis de toutes les branches qui peuvent permettre une sorte de parasol. Ils ressemblent, ces platanes, à des écorchés. Alors, elle vous demande, Pascal, Alain Baraton, auriez-vous une explication à ce style de taille?
Aucune explication. J'avais le tort autrefois de dire que certains horticulteurs, certains paysagistes, certains jardiniers se comportaient comme des bouchers. Je me suis dit, mais quelle horreur, on ne peut pas ainsi insulter les bouchers qui sont une corporation très... Il faut arrêter cette expression d'ailleurs. Voilà. En fait, vous avez des entreprises qui font n'importe quoi. Et vous avez des élus également que les arbres ennuient. Alors on les taille comme des manches à balai, on ne veut pas s'en préoccuper et c'est scandaleux. Quand on taille un végétal de manière aussi absurde, sachez que son espérance de vie est considérablement réduite, je dis bien considérablement réduite, mais on ne s'embarrasse pas de détails, alors on coupe, on recoupe encore, et quand l'arbre vraiment est devenu dans un état trop épouvantable, alors on le coupe, on le remplace, et une fois qu'il sera remplacé, on va le tailler encore et toujours de la même manière. Il n'y a aucune explication qui justifie ce massacre des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de platanes le long des routes. On les massacre simplement parce que les gens qui ordonnent ces travaux sont des incompétents, et que ceux qui exécutent ce travail le sont tout autant.
Et bim. Question de Monique à Bouron-Marlotte. J'ai un oranger du Mexique planté en terre argileuse. Il allait très bien, mais depuis peu, les branches sèchent. J'ai d'ailleurs coupé les branches malades. Comment le traiter?
Il y a trois choses que l'oranger du Mexique déteste. Le froid, les courants d'air. Il déteste le courant d'air et avoir les pieds dans l'eau. Quand je dis les pieds, c'est une métaphore bien sûr. Ce sont les racines. Il a besoin d'un sol drainé. Et si votre oranger du Mexique est dans une terre trop argileuse, si l'eau ne circule pas, ne rêvez pas, il finira par, on va dire, par pourrir. En fait, les tiges deviennent mollasses, le feuillage s'affaisse, et la plante souffre et finit par mourir. Vous savez, les champignons ne sont généralement que les conséquences d'un état de santé qui se dégrade. C'est un petit peu comme vous, Eric, vous êtes en pleine forme, une maladie arrive, et ben c'est à ce moment-là que vous allez peut-être déclencher d'autres problèmes qui sont liés à la première maladie. Donc, pour que l'oranger du Mexique aille bien, on le plante là où il ne fait pas trop froid en hiver, on le protège des vents glaciaux et on évite les terres qui retiennent l'eau.
Et on ne cumule pas les handicaps, donc j'ai bien compris. Clémentine, d'anciens propriétaires avaient mis un cerclage autour du tronc de mon cerisier. Le métal a fini par s'incruster dans le bois. Alors nous l'avons enlevé, ce cerclage, mais le tronc est désormais fendu. Alors nous avons essayé, explique Clémentine, un cataplasme à l'argile verte, mais cela n'a rien donné. Que faire ?
Je ne jetterai pas la pierre sur les anciens propriétaires qui ont cru bien faire, mais ce n'est pas le cerclage qui a pénétré le bois, c'est le bois qui s'est incrusté dans le métal, parce qu'en fait, le cerclage avait pour objet d'éviter que l'arbre ne continue de se fendre, et l'arbre a continué sa croissance. Quand on met un cerclage pour éviter les dégâts sur un végétal, il faut accompagner tous les 2 ou 3 ans, il faut desserrer quelque peu le cerclage pour éviter, bien entendu, ce type de blessure. Là, à ce niveau-là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire.
Pierre de Bois-le-Roi, pour les plantes de bruyère, il faut de l'eau de pluie. Alors, si on n'a pas de récupérateur, comment obtenir de l'eau non calcaire à partir de l'eau du robinet, demande Pierre.
1. On peut toujours récupérer l'eau de pluie par un système de gouttière que l'on dévie. 2. Il faut savoir qu'il faut arroser. C'est pas la peine de trop arroser. Souvent, l'eau du ciel suffit largement, sauf en période trop chaude, bien entendu. 3. Il existe les adoucisseurs vendus dans toutes les bonnes quincailleries.
Nous avons un acacia assez vieux, dit cette auditrice qui n'a pas donné son nom. Un acacia qui n'est plus très vigoureux ces derniers jours. Un pic vert a creusé un nid assez spacieux. Faut-il éloigner l'oiseau pour protéger l'arbre ?
Il faudrait, parce que l'oiseau va venir faire son nid dans cet arbre. Mais comment l'éloigner ? Eh bien, j'en ai fichtrement aucune idée.
Allez, on termine avec un dernier conseil.
Un jardin où il fait bon vivre. C'est un ouvrage d'Alistair Griffith et de Malt Kegley. Je prononce très bien les mots anglais, comme vous pouvez le constater. C'est publié par Force Édition. C'est tout simplement une sorte de manuel de construction d'un jardin où il fait bon vivre. Quantité de conseils, c'est bien fichu.
C'est bien fichu et on aura plaisir à vous retrouver le week-end prochain.
Avec plaisir.